Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Tout pour investir en private equity. C'est jeudi, on aime bien parler de private equity le jeudi sur BFM Business. Et aujourd'hui, nous allons traiter ce sujet avec Paul Moreno-Blosseville. Bonjour Paul.
Bonjour Lorraine.
Merci d'être avec nous, vous êtes le président d'Opal Capital. On va parler private equity, mais surtout on va vous poser une question. Pourquoi est-ce que le private equity s'intéresse autant au secteur du logiciel? Alors on va faire le portrait de ce secteur du logiciel. Et puis, avec voilà, votre œil d'investisseur en PE, vous allez nous dire qu'est-ce qu'il faut surveiller pour estimer si ça vaut le coup d'y aller sur telle ou telle entreprise. Oui. Alors d'abord, pourquoi le logiciel est un secteur intéressant?
Alors, la réponse la plus simple, c'est positionner sur un secteur qui est en très forte croissance. Quand vous prenez l'économie dans son ensemble, le PIB d'un pays, ça croît à entre 0 et 4%, et 4% vous êtes déjà très bien. Les logiciels, c'est un secteur qui, depuis par exemple les 6 dernières années, ont cru plutôt de 6%, et après il y a aussi de 16%.
Ah oui, c'est mieux.
C'est beaucoup mieux, oui. Et en fait, dans les logiciels, vous avez aussi une sous-catégorie qu'on appelle les SaaS, que je vais définir à l'instant, mais qui, elles, croient encore plus. C'est de 20 à 30% de croissance par an.
Les SaaS, le SaaS, on en parle régulièrement sur notre antenne, ce sont tous les logiciels sur abonnement, ceux qu'on paye mensuellement ou annuellement, que ce soit en B2B ou en B2C. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition un peu large de ce qu'on appelle le logiciel?
Le logiciel. Le logiciel, c'est une application qui vous permet de gérer un de vos besoins. Et ça peut être très très large. Je vous donne peut-être 3-4 exemples.
Allez.
Qu'est-ce que je vais utiliser comme logiciel pour gérer une chaîne d'approvisionnement? Eh ben, je vais utiliser un logiciel qui va me détecter pour une charge donnée, pour un produit donné, quel est le meilleur nœud suivant. C'est-à-dire, est-ce que je vais plutôt charger ça sur un camion ou sur un train ou sur un bateau, de façon à faire mes économies de coûts et aussi d'empreinte carbone. Donc, ce logiciel me permet de piloter ma chaîne d'approvisionnement de façon la plus économe, rapide et donc économe aussi en carbone possible. Un deuxième exemple, je suis un entrepôt logistique. Et dans un entrepôt logistique, j'ai besoin de gérer des flux de produits, des flux sur des machines, des camions et des hommes. Et en fait, vous allez avoir des logiciels qui vous gèrent tous ces éléments de la chaîne d'approvisionnement qui arrivent, de la chaîne d'approvisionnement qui part, et tout ce qui se passe au sein de votre entrepôt de logistique. Sans ce logiciel, je ne peux pas opérer cet entrepôt. Voilà, c'est très simple. Un troisième exemple, donc ça je peux vous parler moi de mon expérience personnelle chez Opal Capital. On utilise un logiciel qui s'appelle HubSpot, qui est un CRM, donc un logiciel qui gère la relation client.
C'est le logiciel qui équipe le secteur du private equity.
Exactement. Pourquoi est-ce qu'on utilise ça? C'est parce que en fait on a de multiples contacts avec des dizaines et des dizaines et des centaines de personnes. Et que retenir tout dans notre tête, c'est pas possible. Retenir tout sur un calepin, c'est pas organisé. Sur Excel, ça vole en éclats. J'ai besoin de quelque chose qui me permette de gérer mes flux d'appels sortant, entrant, d'avoir dans un endroit toute l'information que je connais sur ce client.
Voilà, très concrètement, le logiciel, c'est littéralement l'illustration de la transformation numérique de notre entreprise. Ça concerne les entreprises de toute taille. On parle de faire tourner la boîte, oui. On parle d'efficacité, de modernisation, d'automatisation aussi. Et puis tout ça, en fait, à moindre coût, parce que quand on passe par un logiciel, on n'a pas besoin de développer toute une infrastructure numérique complexe.
Exactement.
Voilà pourquoi on s'intéresse à ce secteur avec vous. Alors maintenant, on va se remettre dans les chaussons de l'investisseur. Pourquoi est-ce qu'on regarde ce secteur? Vous allez nous parler de marge d'abord.
Absolument. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde le secteur des logiciels qui sont cotés en bourse, vous avez quelques très beaux noms, quelques pépites, HubSpot en fait partie, je l'ai mentionné. Vous avez quelques sociétés comme ça qui sont en forte croissance sur les revenus et qui sont positives, qui génèrent une marge positive. Vous avez parmi toutes les sociétés cotées et qui font du logiciel, la médiane est plutôt en perte. Et quand vous construisez un index, donc il y a des index qui existent, qui regroupent toutes les sociétés cotées qui font du SaaS, comme cet index, il est plutôt en marge négative, en perte, et bien en fait, vous êtes très sensible à toutes les fluctuations de marché. Vous êtes sensible au fait que, tout d'un coup, la croissance de revenus baisse un peu. Vous êtes sensible au fait que les taux d'intérêt remontent assez violemment, comme on l'a eu ces derniers temps. Et en fait, vous avez donc un index de sociétés SaaS cotées qui est extrêmement volatile. Donc si, ça c'est la situation quand vous êtes coté et non rentable. Donc finalement, nous ce qu'on va regarder, c'est il faut être extrêmement sélectif sur les sociétés sur lesquelles on va investir. J'ai mentionné les taux de croissance du secteur qui sont fantastiques, mais en fait cette croissance fantastique fait que cette volatilité, moi, elle ne me convient pas. Et donc c'est pour ça que je vais rechercher les sociétés qui sont à forte marge.
À forte marge. Il y a aussi un aspect qui vous plaît en tant qu'investisseur private equity, c'est le fait qu'il y a beaucoup de potentiel d'opérations de fusion et d'acquisition. C'est un marché mouvant avec des regroupements. Et ça, expliquez-nous pour les investisseurs non professionnels, pourquoi ça vous plaît?
Alors, quand on rentre dans une opération de private equity, y a trois choses qu'il faut regarder. Un, c'est est-ce que cette société vaut le coup? Deux, est-ce qu'il y a du potentiel? Est-ce que je vais pouvoir en faire quelque chose quand elle sera dans le portefeuille de mon fonds? C'est-à-dire, est-ce que je vais pouvoir faire une augmentation de son profil stratégique qui fait que les profits vont être plus élevés et donc sa valorisation va être plus élevée? Et troisième chose, et en fait c'est ça qui est critique, c'est est-ce que je vais pouvoir la vendre? Parce que si je ne la vends pas, je ne vais jamais pouvoir matérialiser la plus-value.
S'il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de private equity.
S'il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de private equity. Et ce secteur, il est magnifique aussi pour ça, c'est que c'est un secteur extrêmement actif en termes de fusion-acquisition. On a des acteurs stratégiques, c'est-à-dire des acteurs du secteur qui sont extrêmement actifs sur l'acquisition de nouvelles sociétés. Quelque part, en fait, ils ont externalisé leur recherche et développement et quand ils font une opération de fusion-acquisition, ben, en fait, ils ont réinternalisé ce département R&D chez eux. Donc c'est une façon pour eux de continuer à être pertinents dans un monde qui innove en permanence.
On parlait de fusion-acquisition, on a traité en début de semaine avec Antoine Larigonnerie le capotage du rachat d'Informatica par Salesforce. Alors on est sur des entreprises cotées évidemment. Voilà, on essaie de décortiquer pourquoi le logiciel intéresse en particulier les investisseurs en non-coté. On comprend que la volatilité qui est très forte quand on parle d'entreprises cotées l'est un peu moins sur les entreprises non-cotées. Maintenant il y a quelques risques aussi qui concernent spécifiquement les investisseurs non coté et le logiciel. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns?
Oui, bien sûr. Je dirais qu'il faut, compte tenu de l'ampleur de ce secteur et du fait que le fait que les sociétés cotées ne sont pas rentables en moyenne, c'est une réalité qui reflète quelque chose de ce secteur. On a eu des excès du fait de l'argent gratuit pendant une décennie qui ont fait que la croissance à tout prix est devenue une espèce de logiciel dans le logiciel. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très sain, en tout cas vu du point de vue de l'investisseur en private equity. Donc il faut être extrêmement sélectif. Et donc il faut aller regarder énormément de choses pour se rassurer. Première chose, c'est est-ce que cette société a des marges positives? Deuxième chose, est-ce que la technologie qui est utilisée pour faire ce logiciel, est-ce qu'elle est encore à jour ou est-ce qu'elle est déjà dépassée? Est-ce que vous avez des barrières à l'entrée qui vous permettent d'être relativement serein sur les cycles d'innovation? Ou est-ce que la nouvelle société qui se développe est capable de venir prendre votre marché? Donc il y a énormément de choses effectivement qui peuvent mal se passer. Et donc c'est pour ça que, avant d'investir dans une société de logiciels, le secteur est très attractif et ça peut très bien se passer, mais il faut être extrêmement sélectif, faire très attention à ce dans quoi on met les pieds. Et donc il faut ce qu'on appelle les due diligence, qui est donc l'étude approfondie avant d'investir. Celle-là, elle est clé. Cette phase est absolument clé.
On comprend la difficulté de la due diligence parce qu'il y a autant de logiciels que de secteurs, on va dire. peut-être pas autant que d'entreprises, c'est ça la magie du... C'est qu'un logiciel peut servir plusieurs entreprises dans un secteur, mais il y a quasiment autant de secteurs que de logiciels. On parle de technologie, par définition, un logiciel et un SaaS, ce sont des technologies qui sont mises à jour tout le temps. Oui. Comment en interne, dans les fonds de private equity, vous arrivez à avoir la compétence technique de, justement, savoir si la technologie du logiciel que vous surveillez de près est à jour et valable dans les prochaines années?
Vous avez deux approches. La première approche, c'est de recruter dans l'équipe d'investissement des anciens de boîtes de logiciels et donc en fait des gens qui ont un vernis tech extrêmement, extrêmement approfondi.
Peu importe le secteur, oui. La tech.
Et eux vont pouvoir avoir les bons réflexes. Ça, c'est une façon de faire. Il y a une deuxième façon de faire, c'est de s'associer avec des experts. Par exemple, moi, je discute avec un fonds d'investissement qui a recruté dans son équipe d'experts l'ancien Chief Technology Officer de Visma. Pourquoi Visma, c'est une société qui opère dans le logiciel. Et en fait, elle a la particularité d'avoir été extrêmement active dans les fusions acquisitions. Elle a acquis plus de 200 sociétés depuis sa création. Et qu'est-ce que le fait d'avoir cet expert à disposition fait? C'est qu'en fait, lui, il a analysé des centaines de sociétés avant d'investir chez elles. Et donc, a analysé toute la couche logicielle d'un point de vue tech avant de se dire... Non, en fait, cette technologie, elle est fragile. Mm-mm. Ou alors, non, au contraire, cette technologie, elle est vraiment à la pointe. Elle apporte vraiment quelque chose qui ne sera pas apporté par les concurrents. Et donc, elle a vraiment un avantage compétitif.
Bon, il y aurait mille choses encore à dire. C'est sûr que tout le monde n'est pas un ancien exécutif de Visma, un ancien champion du cloud. En termes d'investisseurs particuliers, pour finir cette séquence, Paul, qu'est-ce qu'on peut regarder quand on réfléchit à mettre des billes dans une entreprise du secteur logiciel, peut-être dans la grille de lecture qu'on peut avoir, est-ce qu'il n'y a pas deux, trois choses plus faciles à lire que finalement la technique pure et dure?
Alors moi j'ai plusieurs points dans ma recette que je vais vous livrer. Quand j'ai investi moi dans un fonds, si ce que je veux c'est un fonds qui investit dans le logiciel, je vais favoriser les fonds qui sont spécialistes du logiciel, c'est-à-dire qui n'investissent pas dans autre chose.
Players logiciels.
Exactement, les pure players, parce que justement ce secteur il est compliqué à lire et on a besoin d'expertise. Donc moi j'investis dans ceux qui ont développé ces expertises et qui ont dans leur équipe en fait toutes les compétences qu'il faut pour analyser correctement cette société.
Quoi d'autre?
Deuxième chose, je veux un fonds qui a démontré sa capacité à choisir des logiciels qui sont ce qu'on appelle en anglais mission critical, c'est-à-dire qui sont critiques pour la survie de l'entreprise qui l'utilise.
Si l'entreprise n'est pas outillée, elle va mourir.
Exactement. Donc je vous ai parlé par exemple de ces logiciels qui gèrent les entrepôts d'approvisionnement. On sait très bien que ces entrepôts, sans le logiciel qui gère l'entrepôt, ne tournent pas. Ça, c'est mission critical. Et en fait, ça, c'est ce que j'aime bien, moi, quand je vais investir dans un fonds de private equity.
On parlait de SaaS.
L'expertise et une capacité à bien sélectionner les entreprises.
On parlait de logiciels sur abonnement. Quand on s'intéresse particulièrement au SaaS, il y a cette notion d'abonnement qui est importante aussi.
Et qui est en fait tout l'attrait d'un point de vue modèle d'affaires. Quand vous avez un abonnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire récurrence des revenus. Et qui dit récurrence des revenus, pour le financier que je suis, c'est magnifique. Mmh. Parce qu'en fait, vous avez une prédictabilité extraordinaire. Et donc, vous savez à quel point vous allez générer des revenus aujourd'hui, demain, après-demain. Et donc, en fait, finalement, vous avez cette prédictabilité qui est faite par la récurrence du revenu. Et si vous êtes capable d'analyser que, justement, le taux de déséquipement est extrêmement faible, alors vous avez là, en fait, de quoi gérer une boîte de façon assez simple.
Voilà, quelques éléments pour que vous aussi, investisseurs particuliers, vous puissiez vous projeter en tant qu'investisseur dans le secteur du logiciel. Merci beaucoup, Paul Moreno-Blossville, d'avoir été avec nous. Vous êtes le président d'Opale Capital. Avec nous depuis le début de l'émission. On a démarré une de nos premières semaines de Tout pour investir avec vous. Je vous remercie d'être toujours parmi nos experts, cher Paul. À bientôt sur un autre sujet. Le Private Equity, c'est le jeudi dans Tout pour investir.